vous ai concocté un récit subjectif de l'année 1969, dont voici le menu. Le premier pas de l'homme sur la Lune, une rumeur à Orléans qui crée la psychose, le premier restaurant d'autoroute et la comédie musicale R.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1969.
En 1969, à Orléans, il paraît que des jeunes femmes disparaissent en plein shopping.
Une camarade de classe m'a averti en me disant, tu sais, voilà ce qui se passe à Orléans, des magasins sont incriminés dans la traite des blanches, et enfin, je t'avertis, et à ce moment-là, plusieurs camarades sont approchés, elle nous a avertis, elle nous a dit, surtout, je vous dis ça, uniquement pour que vous n'y alliez pas toute seule. Il faut absolument que vous y alliez avec des parents ou accompagnés.
Enfin, de qui tenait-elle cette rumeur?
C'était par sa belle-sœur. C'était arrivé, enfin, ce serait arrivé à la femme d'un ami.
Alors vous, madame, vous entendez parler de cette affaire? De quelle façon?
Eh bien, j'étais à mon bureau. Le lundi après-midi, je suis rentrée prendre mon travail. Et une de mes collègues, une jeune femme d'une vingtaine d'années, me fait voir une robe qu'elle venait d'acheter. Enfin, je t'en ai fait les compliments, elle était toute contente. Elle me dit, vous savez, je suis pas prêt de retourner en acheter d'autres. Elle dit, vous ne connaissez pas l'histoire de la traite des blanches? La traite des blanches, j'étais complètement éberluée, j'avais pas entendu parler de ces choses-là. La traite des blanches, mais quelle traite des blanches? Et où? Elle me dit, dans les magasins. Vous ne savez pas ça? Chez Dorfy que ça se passe. Ah. Et puis au petit bénéfice. Petit bénéfice. Et puis elle me dit, il y a d'autres magasins. Chez Lâche, chez Félix, le marchand de chaussures. On a trouvé des femmes endormies. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ces enlèvements, paraît-il, n'arrivent pas n'importe où. Uniquement dans des magasins tenus par des juifs.
Je sais que de toute manière, j'aurais pu essayer une robe chez les juifs.
Comme dans les godasses, il faut essayer des godasses et puis ils leur font des petits robes.
Oui, c'est vrai. De toute manière, non, les gens n'auraient pas inventé ça, qu'il y a quand même quelque chose de vrai. Il faudrait qu'il y ait des filles qui ont
disparu. Une cabine, plus suspect, comme ça, je sais, je travaillais chez les juifs, je sais comment ça se passe. À inventer tout ce que les gens ont inventé, je crois pas.
Mais est-ce que vous y avez cru?
Au début, oui. On y croit même encore, certains commerçants.
Un premier commerçant est ouvertement désigné par la rumeur. Henri Licht, il est propriétaire d'un magasin de confection.
Monsieur Licht, que s'est-il passé exactement?
Il ne s'est rien passé. Enfin, le 23 mai, un ami vient me voir en me disant « Ma fille a appris au lycée qu'il se passe de drôles de choses chez toi. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe? Tu enlèves des femmes ?» Tu les drogues et tu les expédies vers certains pays d'Amérique du Sud et d'Arabie. Sur le moment, cette affaire m'a paru absolument ahurissante. J'en ai rigolé. C'était la veille de la Pentecôte, je suis parti pendant 2 jours. Le 25, coup de théâtre. Je reviens au magasin, l'histoire avait gonflé démesurément. Nous nous trouvions devant une véritable cabale. Ce n'était plus une femme, c'en était 3, plus 7, plus 15, plus 38. Plusieurs magasins commençaient à être cités. Et puis le 26-27, tous les magasins juifs de la ville étaient pratiquement dans le coup. Devant cet état de choses, nous sommes réunis, nous avons décidé de porter plainte.
La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme proteste, mais la préfecture du Loiret calme tout le monde. Elle appelle les Orléanais à la raison. Tout cela n'est qu'une rumeur. La police n'est saisie d'aucune disparition chez des commerçants juifs. À l'été 1969, le célèbre sociologue Edgar Morin enquête sur cette rumeur.
Il faut se rendre compte que le salon d'essayage, surtout dans pour des jeunes filles qui, dans le fond, vont avoir leur premier vêtement de femme, et surtout dans les villes qui commencent à se moderniser depuis ces dernières années, c'est un endroit un peu fabuleux, c'est un endroit où on se met nu, on se dévêt, on se regarde dans une glace, on est enfermé comme dans un WC, mais pas vraiment, il n'y a qu'un rideau qui sépare, il y a beaucoup de fantasmes érotiques, n'est-ce pas, qui peuvent naître du salon d'essayage. Donc ça fait quelque chose d'assez troublant, ce qui, à mon avis, explique que cette rumeur de traite des blanches avec salon d'essayage et piqûre courait depuis 7 ou 8 ans au moins, dans plusieurs villes, dans Paris. Il semble que quand elle court dans une très grande ville comme dans Paris, le thème du juif n'apparaît pas. Mais dès qu'elle s'incarne dans une petite ville, c'est-à-dire dès qu'on dit ça se passe ici, eh bien il y a une sorte de force irrésistible qui la fixe sur le commerçant juif. Le fantôme du juif qui dans le monde chrétien occidental est celui qui fixe l'angoisse et qui prend en charge la culpabilité, et finalement qu'on va sacrifier comme bouc émissaire, ce fantôme du juif commence à sortir des profondeurs où on le croyait à jamais enfoui.
Un scandale, une calomnie.
Quelle a été votre réaction personnelle ?
Ma réaction, du dégoût. Ça m'a fait penser exactement à ce que les Allemands ont pu faire pendant la guerre. Et mais ce qui me déçoit le plus, c'est que la 90% de la population orléanaise, aussi bien que les alentours, c'est-à-dire Férol, Ouvroir, l'ont cru. Et ça, c'est la pire des choses.
Et pourquoi est-ce qu'on y a cru ?
Quand une chose va pas, ce sont les Juifs. Demain, ce sera les Arabes. Après, ce seront les Portugais, vous comprenez ? Il faut qu'il y ait une brebis galeuse.
En 1969, on appelle ça une légende urbaine. Mais pourquoi avoir crié au loup de la sorte ? Au-delà de la désolante cabale antisémite, le sociologue Edgar Morin tient une autre explication.
Pour les parents et pour certains éducateurs, ils voient là l'illustration concrète du danger que représente pour eux toute cette nouvelle mode pour la jeunesse et pour la jeunesse féminine, la mini-jupe, Saint-Germain-des-Prés, le yéyé, Paris. Tout cela est symbolisé dans ces nouveaux magasins modernes avec salon d'essayage. Et pour eux, c'est l'occasion de dire à leurs enfants effrayés, vous voyez, mes enfants, faites attention, on commence par la mini-jupe, mais on ne sait pas où ça peut conduire.
Et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années érotiques.
Gainsbourg et son Gainsbourg vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années érotiques.
C'était le couple sulfureux de 1969, Jane Birkin et Serge Gainsbourg dans 69 années érotiques.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1969.
En 1969, il y a 8 ans que le président américain John Fitzgerald Kennedy a fixé un objectif à la NASA. Poser un équipage sur la Lune. Avant la fin des années 60. Et là donc on est en 69 et l'ultimatum approche. Au cours du mois de juillet 69, les États-Unis lancent une nouvelle mission pour tenter de décrocher la Lune. La mission Apollo 11. Le 20 juillet 69, le commandant Neil Armstrong et le pilote du petit module lunaire appelé l'Aigle, Buzz Aldrin, quittent Apollo pour aller marcher sur la Lune. Durant toute leur opération de descente, ils sont en lien constant avec leur base spatiale. Les auditeurs d'Europe numéro 1 vivent l'événement en direct. D'abord grâce au reporter Julien Besançon qui se trouve à Houston et aussi grâce au journaliste scientifique Maison à Paris, Albert Ducrot.
Écoutez, les voix se font de plus en plus hachées. 24 secondes. 22. continuent à descendre, il n'y a aucun doute. Ils sont voisins de 15 000 mètres maintenant. 10 secondes.
8. Jamais nous n'avons vécu un tel suspense.
13 800 mètres d'altitude. 5 secondes, 4 secondes. 3, 2, 1, 0. Je vous le rappelle, doit durer 5 minutes 58 secondes, alors que le vol total lui va durer 8 minutes 24 secondes.
Il descend.
Dans 29 secondes, 30 secondes que le moteur est à feu. Il doit réduire leur vitesse de façon absolument considérable.
Il est 15 000 mètres au-dessus de la Lune.
Grosso modo, maintenant, ils sont à moitié, ils sont à près de 3 000 km à l'heure. Et leur distance du point d'impact sur la Lune doit être maintenant inférieure à 150 km. 1 minute 26 secondes.
Neil Armstrong vient de confirmer à Houston que tout fonctionne parfaitement.
Et la descente continue.
Toujours en régime automatique.
À moins de 15 000 km d'altitude.
C'est cela.
Ils sont en dessous des 15 km.
Et très rapidement, très très rapidement, l'altitude baisse et dans maintenant un peu moins d'une minute, ils devraient être distants de moins de 8 km du point où ils vont se poser.
Ils voient la Lune comme on voit la Terre d'un avion.
7 800 mètres, si tout va bien.
Après la phase de descente vers la Lune, vient le moment le plus compliqué. Buzz Aldrin prend les commandes de la capsule pour se poser sur la Lune.
Ça y est. Maintenant, la commande doit être manuelle. Et tout ce qui se passe dans l'inconnu absolu actuellement, nous sommes à 3 minutes 36 secondes de la posée sur la Lune. Tout ce qui se fait maintenant est directement l'œuvre de l'homme, c'est-à-dire Aldrin, lui-même, qui est aux commandes du module lunaire. 2760 mètres d'altitude. Quel est le problème actuellement? Il faut réduire la vitesse à une vitesse inférieure à 67 km à l'heure. 65, je corrige, km à l'heure. Il y a maintenant 30 secondes en principe qu'Aldrin a dû saisir les commandes. Pendant 2 minutes 44 secondes, il va réduire de 59 à 26% de sa puissance. mètres d'altitude. Tout va beaucoup plus vite qu'on ne l'avait pensé. Il y a un gain de temps. Le go vient d'être donné pour l'atterrissage. Go pour l'atterrissage à 1260 mètres d'altitude actuellement.
1200 mètres au-dessus de la Lune.
Écoutez.
Bravo One.
Ils sont à 1260 mètres d'altitude, au tiers de l'altitude du Mont Blanc. Pilotage manuel repris pour le poser. Nous entrons dans la troisième phase maintenant. Après ce que je vous ai intitulé comme étant le coup de frein, puis l'approche. Maintenant, nous allons entrer dans le posé. 120 mètres d'altitude. Dans le posé, en gros, devrait commencer dans une trentaine de secondes. Une trentaine de secondes, c'est-à-dire quand ils seront à une altitude inférieure à 50 mètres. Là, ils descendent absolument verticale sur la Lune. Ils sont actuellement absolument en vue de l'endroit où ils se posent. Et comme vous le remarquez, il n'y a pas de description encore de cet endroit. Ils sont pris par leur manœuvre et le moteur. Je vous le rappelle, c'est une opération qui n'a jamais été faite, jamais la NASA n'a fait fonctionner aussi longtemps ce moteur. Dans 13 secondes, il devrait être à une altitude voisine de 50 mètres. Ils ont le droit de se poser. Ils sont à 50 mètres.
Ils devraient se poser maintenant dans moins d'une minute.
Down, Eagle. You're looking good here.
Yeah.
L'homme est à la lune.
Le feu. Et pas le feu en touché. Le contact de feu s'est allumé sur le tableau de bord.
Oui. Tranquility, oui.
Vous entendez ici l'applaudissement.
Le feu, we're breaking.
Exactement, à l'heure précise. À l'heure précise, le 20 juillet 1969. Alors qu'ils étaient partis depuis 14 jours, depuis qu'ils étaient partis depuis 5 jours et que Collins tourne pour la 14e fois autour de la Lune, à 21h18, le module lunaire a touché la Lune.
Premier exploit accompli, le petit vaisseau est sur la Lune. Et maintenant, vont-ils fouler le sol lunaire ? Je vous raconte toujours l'année 1969 et nous en étions à ce moment où le 21 juillet, deux astronautes américains viennent de poser un de leurs engins sur la Lune. À partir de ce moment-là, le monde entier attend d'assister au premier pas de l'homme sur la Lune. Et tout le monde sait que c'est Neil Armstrong qui a été désigné.
Maintenant, la cabine est ouverte. Ok, Houston, je suis sur le seuil.
Ok, Neil. Ça y est, on a une image sur la télé. Ok, Neil, on voit descendre l'échelle maintenant.
Je suis sur le bas de l'échelle, à un pas du sol maintenant. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Ici, le sol est fin et poussiéreux. Je secoue une poudre bleue du bout de mon pied. Elle adhère en couche à la semelle et aux côtés de mes bottes. Je ne m'enfonce que de 3 cm, peut-être 2. Mais je peux voir l'empreinte de ma botte dans les fines particules sablonneuses. C'est d'une beauté étrange, particulière. C'est un peu comme le grand désert des États-Unis. C'est différent, mais c'est très joli.
Buzz Aldrin rejoint ensuite Neil Armstrong à la surface de la Lune.
Est-ce que vous avez vu, vous attendiez à peu près à voir cela, ou bien ça vous a très franchement...
J'avais aucune idée préconçue, je ne m'attendais pas à voir quelque chose de bien précis. J'avoue que la qualité me surprend, enfin, ça me paraît excellent. Enfin, ce n'est pas seulement de les voir marcher, c'est de savoir qu'ils sont là-haut, quoi. C'est le plus grand événement de l'humanité depuis qu'elle existe, ou pratiquement.
J'ai 63 ans, mais je ne croyais pas le voir de mon vivant, je croyais le voir du haut du fauteuil là-haut.
Je trouve ça prodigieux, mais... J'ai l'impression que ça se passe exactement comme au cinéma. Il n'y a pas assez de suspense.
C'est à la fois monstrueux et familier.
À la fois monstrueux et familier.
Oui.
Familier parce que
ça a l'air facile et monstrueux à cause de la lenteur.
Le monde entier se passionne pour ses premiers pas sur la Lune. Mais il y en a un qui ne goûte pas du tout au spectacle. L'artiste Salvador Dali.
Tous les gens qui continuent à mourir et à crever, c'est à cause et uniquement la faute de Monsieur Jules Verne. Ça, c'est certain. Que c'est le plus grand représentatif de ce que j'appelle les crétins mous. C'est un crétin mou 100%. Parce que il a embarqué l'humanité dans tous ses enfantillages de conquérir l'espace. Ça coûte très cher, en plus. Et si tout cet argent, au lieu d'aller à la Lune, on mettait tous les microscopes électroniques à regarder les structures moléculaires de l'acide désoxyribonucléique, il se peut que déjà aucun de nous serait capable de mourir. Maintenant, tout le monde continue à mourir comme des vrais crétins.
Il n'y a pas que Dali qui n'est pas à la fête. Côté soviétique aussi, on fait grise mine. Il faut dire qu'on est en pleine guerre froide. Et les soviétiques sont humiliés par la victoire américaine.
Les réactions sont très faibles à Moscou ce matin. J'ai sous les yeux le numéro de la Pravda, le seul journal à paraître le lundi. En première page... Vers le milieu de la page, un titre de deux colonnes de moyenne importance, ils ont à l'uni. et ensuite un point d'exclamation. Et je crois que ce point d'exclamation, à leur présence, est le seul commentaire qu'on puisse recueillir en URSS sur l'exploit américain de cette nuit. En dessous de ce titre, une source dépêche annonce que la cabine lunaire a pris contact avec le sol. Pour l'instant, ni la radio, ni TASS, ni la Pravda n'ont fait état d'un message de félicitations des dirigeants soviétiques au président Nixon, comme d'habitude le Kremlin le fait, mais on ne peut douter que le message sera envoyé. La réserve est donc grande aujourd'hui en URSS, et on sent, on y décèle, une sorte de manque de fair play.
8 jours après leur exploit, les héros américains reviennent sur Terre. Welcome home, guys.
Tout s'est passé de façon absolument prévue. Il n'y a eu que 24 secondes de retard. Et ce que craignaient beaucoup les astronautes, comme les gens de la NASA, c'est-à-dire le passage dans la haute atmosphère à 40 000 km à l'heure, s'est très bien passé. En revanche, c'est l'arrivée dans l'océan Pacifique qui fut plus laborieux. Les vagues étaient hautes et il a fallu attendre plus d'une heure et demie pour que la cabine qui s'était posée sur le cône, sur la face pointue, puisse être retournée et les cosmonautes mis dans un canot, sortis par le panier d'hélicoptère et rapatriés sur le pont de l'Ornette. Tout est terminé pour eux maintenant. Commence seulement le long debriefing, la période pendant laquelle ils vont avoir à raconter tout ce qu'ils ont vu, pendant laquelle sera analysée leur réaction, aussi bien physique qu'intellectuelle. Déjà une prise de sang a été faite, déjà un examen médical a eu lieu, mais pendant 18 jours maintenant, cela ne cessera pas pour eux, aussi bien pour eux que pour ce qu'ils ont ramené de la Lune, les minéraux, les photographies et l'appareil à mesurer le vent solaire qui seront décontaminés eux aussi, soumis à toute une série d'examens mis en présence de végétaux et d'animaux et livrés seulement aux savants une fois que la quarantaine sera terminée.
Come Together, des Beatles, bien sûr une chanson de John Lennon. Ce titre est présent sur le dernier album du groupe Abbey Road, paru en septembre 69.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1969.
Je me balade toujours en 1969. Et comment fait-on en 69 quand on a un petit creux sur l'autoroute? Eh bien, on ne fait pas. On attend. Dans les années 60, les aires d'autoroute sont équipées de pompes à essence, de toilettes et à la rigueur d'un téléphone. Mais pour déjeuner, les Français emportent leur jambon beurre. Mais en 1969, Jacques Borel, un industriel français, se lance dans la création de restaurants autoroutiers. Cet homme d'affaires a souvent eu le nez creux. En 1961, il a déjà senti le coup en lançant la première chaîne de burgers en France, les Wimpy. Et en 69, Jacques Borel, donc, ouvre son premier restaurant d'autoroute sur l'autoroute A6.
C'est à Venois, tout près d'Avallon, que s'est ouvert le premier restaurant d'autoroute. Cette inauguration était marquée par la présence de M. Borel, président de la Compagnie des restaurants, du président de l'autoroute Paris-Lyon, M. Colohiri, et M. Dreyfus, directeur des routes. Ce restaurant est le 117e du groupe Borel. Par contre, il est le premier restaurant d'autoroute avec des salles latérales, passerelles panoramiques au-dessus des voies de circulation et doté bien sûr d'un parking, de téléx et de téléphone.
Le succès est immédiat. 6000 clients déjeunent tous les jours en 30 minutes chrono. Et ils sont conquis par les trois menus à 11 francs. Les restos d'autoroute poussent comme des champignons. Mais l'avis des consommateurs est unanime. C'est pas bon. Alors en 1961, Jacques Borel est filipendé. Il est accusé d'être le pape de la malbouffe.
La mauvaise réputation, c'est celle qui lui a été faite par nombre d'automobilistes. Impression subjective, sans doute, relevée par des aigreurs d'estomac, mais étayée par les enquêtes d'Union de consommateurs, dont les conclusions ne varient pas. Mauvaise qualité de l'alimentation, prix prohibitif. Continuité du service 24 heures sur 24, droit d'entrée important versé aux sociétés d'autoroute, coût de la construction d'une station d'épuration, aménagement et entretien de l'air affecté au restaurant, surdimensionnement des installations pour faire face à l'engorgement des départs en vacances, les sociétés de restauration d'autoroute ne manquent pas d'arguments pour justifier une politique de prix et un type de restauration industrielle qui ne peuvent, eux, que mécontenter leurs clients.
Mais Jacques Borel se moque de toutes ces critiques. Il n'a qu'une ambition, à réussir. Et pour lui, cette réussite se mesure au doux son du tiroir-caisse. Sur ce plan-là, il est le meilleur.
Curriculum vitae, élève médiocre, HEC, meilleur vendeur dans une société d'informatique. À 30 ans, il se met à son compte et se lance dans un nouveau style de restauration.
J'ai 6 rendez-vous samedi.
Ok, samedi, oui.
Seulement dans la vie, il ne faut pas être intelligent, il faut être pratique. C'est tout à fait différent. Les gens intelligents passent leur temps à avoir des idées. Les gens pas intelligents, quand ils en tiennent une, ils la réalisent.
Et vous savez juger de la qualité de la cuisine?
Un peu. J'ai été chef de cuisine pendant 6 semaines.
Comment se fait-il que chaque fois qu'il y a une intoxication alimentaire en France, on donne le nom de Jacques Borel?
C'est tout à fait inexact, parce que les intoxications alimentaires sont malheureusement existent. Ça fait partie du risque. Mais les intoxications alimentaires sont passées de 1 pour 100 000 repas à 1 pour 180 000 repas en l'espace de 15 ans d'efforts.
Chez vous ou chez les autres?
Chez nous.
Est-ce que Jacques Borel aime le morceau de steak haché entre deux morceaux de pain?
Vachement. Quand j'ai, malheureusement, pour moi, j'ai pas le temps de le prendre, parce que la plupart du temps, comme les cordonniers, je suis mal chaussé, j'ai pas le temps de déjeuner.
Bref, en 1969, Jacques Borel est une célébrité qui va être pastichée, notamment dans le film L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès et Coluche. C'est lui qui va inspirer le célèbre industriel Tricatel, dont l'usine fabrique des poulets d'une manière douteuse, à partir de plastique et d'une pâte gélatineuse grisâtre.
Chacun son tour, monsieur Tricatel pourrait peut-être passer des tests.
Il n'en est pas question. Je suis pas crédit, moi.
Mais vous nourrissez les autres, c'est encore plus grave.
Alors, vous ne savez pas ce que vous leur donnez à manger?
Alors, je vous demande maintenant de formuler un jugement sur ces produits.
Mais c'est infect! C'est absolument innommable! Ils ont voulu m'empoisonner! C'est pas de la nourriture.
Exact! Ces produits viennent de chez vous. Et des millions de personnes les consomment chaque jour.
Impossible, monsieur, absolument impossible.
1969, Ondelat raconte sur Europe 1.
Je me balade toujours dans l'année 1969 et cette année-là, Paris découvre le spectacle qui cartonne à New York. En 69, à Broadway, sur la 5e avenue new-yorkaise, la comédie musicale Hair enchante les Américains depuis 2 ans. C'est un opéra dansant, une ode à la jeunesse hippie des années 60 et fidèle à l'esprit Peace and Love. Air est un souffle de liberté pour la jeunesse américaine. Et donc en mai 69, Hair débarque en France. Le spectacle rompt avec les codes moraux et religieux qui étaient alors en vigueur un peu partout dans le monde. Sa mise en scène est tout aussi originale.
Ce qui est le plus étonnant, c'est que ces échafaudages d'avant-scène resteront. Ils font partie du spectacle, partie intégrante. Mais tout cela, évidemment, c'est pour R. Je vais tout simplement me tourner vers Bertrand Castelli, qui est à l'origine de tout ce spectacle de R ici à Paris. Alors, expliquez-nous déjà ce décor. C'est assez hétéroclite, assez spécial. Enfin, on n'a pas l'habitude de voir ça dans un spectacle, à plus forte raison, à Paris.
Ce qu'il y a, c'est que, en fait, on a, dans ce théâtre vide, on prépare comme un hôtel sur lequel vient se célébrer une cérémonie tous les soirs. À la place d'un crucifix, on a un totem des villes modernes, c'est-à-dire des constructions avec lesquelles on construit des maisons. Et sur ça, on accroche tous les symboles de la publicité, tous les symboles du néon, tous les symboles de la vie de consommation. Et je ne sais pas comment on appelle ça en français, le système.
Les biens de consommation.
Les biens de consommation. Autrement dit, tout ce qui marque notre époque.
Le spectacle est monté avec très peu de moyens. Les chanteurs-danseurs ont accepté de faibles cachets. Ce sont souvent des débutants. Et c'est Julien Clerc qui tient le premier rôle.
Toi, Julien Clerc, qu'est-ce qui t'a amené à R, en fait? C'est une expérience, c'est quelque chose, c'est le sel de la découverte, c'est quoi?
C'est d'avoir vu où? C'est de l'avoir vu à l'ombre, et c'est quand on sort, c'est d'être transporté de joie, parce qu'on a... Je crois que la grande chose dedans, c'est qu'on a de la sympathie pour les gens qui sont sur scène. Et c'est ça qui est important, c'est que R, c'est une espèce de... Quand de la salle, on voit une espèce de vague, enfin, c'est mouvant, un peu comme des algues. Et on sort de là, on est transporté. Je ne sais pas comment expliquer, enfin, c'est une énorme sympathie pour ces gens qui sont sur la scène et qui s'amusent. C'est en ça, je crois, la participation du spectateur. Et à la fin, quand les gens montent sur scène pour danser dans cette espèce de surprise partie improvisée. Je dis surprise partie parce qu'on est en France, mais c'est normal. Enfin, moi, j'étais au balcon, j'ai pas pu y aller. Si j'étais en bas, je serais monté.
Le soir de la première, des bénévoles de l'association chrétienne L'Armée du Salut tentent d'empêcher la tenue du spectacle avec un mot d'ordre. Stopper la vague érotique. Sauver nos enfants.
Il ne faut pas, sous prétexte de l'art, ramener l'homme dont la dignité est d'avoir été créé à l'image de Dieu, comme disent les Saintes Écritures, au niveau de la bête. Et actuellement, ce qui se passe sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin ravale l'homme au niveau de l'animal. Ce qui est pire que la misère matérielle, c'est la misère morale des gens qui ne savent plus à quoi croire, c'est la société permissive, c'est la jeunesse qui se perd, et nous avons le sentiment qu'il faut faire quelque chose pour réagir, même si la cause était une cause perdue.
Et c'est Julien Clerc qui est désigné pour répondre aux doutes du représentant de l'Armée du Salut.
Dieu vous bénisse, sauvez vos âmes.
Je sais pas, je pense que je trouve ça un peu gros. Si Hier est un spectacle érotique, moi je trouve pas. Enfin, ce monsieur devrait sortir pour voir les spectacles érotiques. Il y a des spectacles érotiques à Paris. Dans R, je trouve qu'il n'y a rien d'érotique. Moi, je trouve que R, c'est plutôt quelque chose de pur. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai retenu qu'ils avaient reçu beaucoup d'argent pour aller voir R, depuis qu'ils ne sont pas venus qu'une fois. Ces gens sont revenus. La deuxième fois, on ne les a plus beaucoup entendus. Au bout de la troisième fois, ils n'ont plus entendu du tout. Ce qui prouve qu'ils sont touchés par la grâce.
Et pourtant, il y a peut-être beaucoup de choses qui peuvent choquer un spectateur moyen.
Un responsable de l'Armée du Salut, oui, un spectateur moyen, je pense pas. Non, parce qu'il n'y a pas de spectateur moyen qui soit choqué par ce qui se passe dans l'air. Vous savez, mes parents, qui sont des gens respectables, qui ont même dû donner, d'ailleurs, parfois dans leur vie à l'Armée du Salut, n'ont pas été choqués par les choses qui ont choqué ce monsieur, en tout cas.
Est-ce que vous connaissiez l'Armée du Salut avant que les militants, les salutistes viennent contester votre spectacle?
Bah oui, je les connaissais parce que j'ai dormi dans un hôtel de l'Armée du Salut, qui nous ont reçus très gentiment. Autrement, je les ai vus de temps en temps haranguer la foule dans les rues, comme ça. Tout ce que je peux dire, c'est que même quand j'étais avec des bandes d'amis et qu'on trouvait ça drôle, vous savez, il faut bien que jeunesse se passe, jamais on empêchait ces gens de parler, nous.
Le soir de la première, le public de R répond aux opposants au spectacle en scandant « Nous sommes tous des obsédés ! Nous sommes tous des obsédés !» Et le spectacle R se trouve un soutien artistique de poids. L'artiste Salvador Dali, pour lui, R n'a rien d'un spectacle érotique.
Moi, je considère que c'est un spectacle surtout anti-érotique par excellence, parce qu'on voit trop de varices, trop de boutons, et après, l'érotisme, c'est le contraire de ce genre de fucking mécanique que dans notre cours nous appelons faire tout simplement de la machine à coudre. Et sûrement le vrai érotisme, comme je viens de le démontrer dans mon livre qui s'appelle Métamorphose érotique, consiste justement à s'abstenir de faire la machine à coudre pour dériver les grandes passions vers ce qu'on appelait dans notre région du Languedoc et de Perpignan l'amour courtois. Toi.
On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude. Savoir si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard. Je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Et le silence me répond en secret. Burger, j'ai l'impression de mourir. Chester, England, England. Manchester, England, England. Au bout de l'Atlantique, je suis un génie, génie. Et je crois en Dieu. Et je crois que Dieu en clôt un foie et clôt, c'est moi.
C'était « Laissons entrer le soleil », la version française de « Let the sun shine in » de la comédie musicale R avec à sa tête Julien Clerc. Eh bien, nous en avons terminé avec 1969. Je remercie mes hippies, Guillaume Maury et Julien Pichenet, et Boris Paczynski pour la réalisation. Vous trouverez sur votre application dédiée d'autres podcasts qui racontent d'autres années.
Retrouvez On Delat Raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.